comme titre de cet atelier, vous avez pu le lire sur le programme, les organisateurs de la session m'ont demandé de faire quelque chose sur le pape François. Pour donner une petite note d'actualité, même si nous sommes ici d'abord pour des raisons spirituelles, profondes et un peu intemporelles, il a paru bon de nous incarner un peu dans le contexte actuel de l'Église, puisque nous formons un peuple bien réel, bien concret, qui marche derrière le Seigneur, mais à une époque précise, avec des responsables précis. Donc, c'est cette idée de parler un petit peu et de réfléchir ensemble sur le pape François, en particulier autour de sa première grande lettre, qui est une exhortation apostolique, qu'on appelle la joie de l'Évangile. Exhortation apostolique, le nom le dit bien, ce n'est pas une encyclique, c'est-à-dire ce n'est pas d'abord un enseignement doctrinal qui vise à approfondir tel ou tel aspect de notre foi. Il s'agit plutôt d'une exhortation, comme le nom le dit, c'est-à-dire un texte plus pastoral qui vise à mettre en route, à exhorter, c'est-à-dire à donner une feuille de route. Et on peut dire que ce texte, qui ne traite pas d'un sujet particulier, souvent les encycliques, elles traitent d'un thème. D'ailleurs, récemment, le pape a sorti sa deuxième encyclique, vous savez, sur le thème de l'écologie. Bon, l'exhortation, elle n'a pas un thème particulier, c'est plutôt une feuille de route. On pourrait dire que c'est une espèce de grande homélie, un grand sermon, un peu fervorino, qui vise à réveiller les cœurs, qui est un peu la feuille de route du pontificat du pape François. Donc il est intéressant parce que vraiment, il nous permet d'essayer de cerner non seulement la physionomie spirituelle du pape, mais surtout ce qu'il nous dit, ce qu'il veut dire à l'Église pour la remettre en route, en tout cas durant son pontificat. C'est un peu une invitation pour nous à réfléchir sur le mystère du ministère pontifical du pape François, et en particulier le rôle que peut représenter pour nous le pape, l'évêque de Rome. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui? Alors, en préparant ce texte, je me remettais en mémoire que souvent, quand on parle à nos frères des confessions chrétiennes non catholiques, nos frères protestants ou orthodoxes, parfois ils nous disent « Oh là là, mes pauvres catholiques, vous avez vraiment pas de chance d'avoir un pape, c'est une institution pénible, très lourde, qui est contraire à l'Évangile. » Vous savez, ils sont assez sévères, hein. Même les orthodoxes, la conception actuelle que vous avez du pape, ça n'est pas conforme à l'Évangile, la primauté pontificale est beaucoup trop lourde, elle empêche le Saint-Esprit de travailler, bon. Souvent, les non-catholiques sont assez sévères sur le ministère. Les protestants disent que ça vient du diable, c'est une invention du diable. Et malgré tout, il y a quelques années, je crois il y a 2 ou 3 ans, un ami protestant m'a dit « Officiellement, je dois dire que je suis contre le ministère pontifical, mais je tiens à te dire que vous avez beaucoup de chance d'avoir un pape. » Bon. Alors ça m'a amené à réfléchir effectivement un peu plus concrètement sur ce mystère du ministère de Pierre, c'est-à-dire cette idée que l'Église est gouvernée au sommet par une seule personne, même si il y a avec lui des milliers d'autres évêques qui gouvernent collégialement, ce n'est pas une monarchie absolue. Mais malgré tout, il y a un évêque qui est un peu plus évêque que les autres. Et cet évêque, c'est l'évêque de Rome, même s'il a 3000 autres évêques autour de lui. Et évidemment, le fait d'avoir un évêque de Rome qui est vraiment le chef visible de l'Église, on voit très bien que c'est un principe d'unité, ça nous aide à être unis. Et le protestant me disait, vous avez la chance, vous restez unis, au fond, parce que vous avez un pape. Alors que nous passons notre temps à nous diviser, chacun fonde son Église. Bon, unité doctrinale, un homme qui peut parler au nom du Christ à un moment donné pour dire quelque chose qui rassemble les catholiques, alors que nous, les protestants, nous nous éparpillons. Bon, principe de stabilité aussi. Mais, et c'est là que cet ami protestant m'a invité à réfléchir, c'est aussi intéressant parce que le ministère pontifical, on pourrait imaginer que stabilité, unité, c'est aussi un facteur d'immobilisme. Vous savez, on dit souvent quand il y a un régime monarchique, une seule personne qui a beaucoup de pouvoir, ça ne facilite pas souvent les réformes. En particulier par le mode de désignation. Comment est-ce qu'est désigné notre pape? Ça n'a rien de démocratique. C'est même, on peut dire que l'Église, qui est une des plus grandes communautés humaines sur la Terre aujourd'hui, 1,3 milliard, je ne sais pas combien, 400 millions de catholiques, est dirigée par une personne qui n'est pas du tout élue par la base, qui est élue par un tout petit collège d'une centaine de personnes. Donc on peut dire que ce n'est pas très démocratique. Ça va être un facteur de sclérose. Un petit groupe de gens va toujours élire le même genre de profil, le même genre de personnes, ça ne va pas bouger. Et ça pourrait être le risque. Les institutions humaines, souvent, quand elles sont trop fermées sur elles, vous voyez les monarchies humaines, parfois, on a des rois qui finissent par être un peu dégénérés. Parfois, il y a un roi génial, et puis après... Eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que nous avons la grâce dans l'Église, et c'est vraiment le signe pour moi que c'est le Saint-Esprit.